Et sur ça, nous allons donc ouvrir la Bible ensemble pour ce soir. Et donc, nous allons regarder un thème que le Seigneur nous adresse dans sa parole, de ne pas être négligent. Donc, si vous étiez là le week-end dernier, ou si vous avez regardé la vidéo, vous vous rappelez peut-être que le thème soulignait le fait que Dieu n'a pas effectué, en envoyant Jésus, un changement radical de direction, en regrettant ce qu'il avait fait jusque-là et en décidant qu'il fallait trouver le plan B. Il n'a pas abandonné le peuple d'Israël non plus, il n'a pas abandonné non plus toutes les promesses qu'il avait faites à son peuple dans l'Ancien Testament. Par Jésus, Dieu a plutôt réalisé, accompli toutes les promesses qu'il avait faites. C'est d'ailleurs ce que dit Jésus en Matthieu chapitre 5, verset 17, quand il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Donc, pour abolir l'Ancien Testament, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir ce qui a été écrit. Et c'est pour cela, justement, que l'Ancien Testament peut encore nous parler, peut encore être utilisé par le Saint-Esprit pour nous révéler l'amour et la grâce de Dieu, si nous le lisons correctement. Si on l'applique correctement à l'optique de ce que Dieu a fait et accompli en Jésus-Christ. Quelqu'un dira peut-être, mais en Galates, l'apôtre Paul a écrit, chapitre 3, verset 12, « La loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Paul qui dit « La loi ne procède pas de la foi » et on est sauvé par la foi. Et pourtant Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi. » Paul dit « Le problème c'est qu'il est écrit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra pour elle. » En fait, Paul était en train de s'adresser à des gens qui avaient mal compris et qui appliquaient mal même l'Ancien Testament en disant, si on arrive à vivre à peu près selon ce que dit la loi, à appliquer ses commandements, c'est bon. On est juste aux yeux de Dieu. Et donc, on va être sauvé, on va être justifié parce qu'on a fait de grands efforts, on a fini par faire plus de bien que de mal, on a réussi à 70, 80, peut-être même 90% de ce que Dieu avait écrit, donc c'est bon. Paul dit, malheureusement, la Bible nous dit que le juste vivra par la foi, et la loi ne procède pas de la foi. La loi dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Justement, ce que ces personnes avaient oublié, c'est que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu n'imaginait pas que ce soit possible pour un être humain de mettre ces choses en pratique afin de vivre par elles. C'est d'ailleurs le fond des arguments entre des disputes entre Jésus et les pharisiens. Jésus dit aux pharisiens, vous, votre problème, c'est que vous avez essayé d'abaisser le niveau parce que vous vous êtes bien rendu compte que vous n'arriviez pas à obéir parfaitement à toute la loi en tout temps. Donc, vous avez fait des règles pour dire, si on arrive à faire cette partie-là, et si on respecte telle ordonnance, c'est bon. Dieu va considérer qu'on a fait suffisamment d'efforts pour être juste à ses yeux. Mais Jésus dit, tel n'était pas l'objectif. L'objectif de la loi, c'était de nous montrer à quel point nous sommes loin du compte et à quel point ça nous est impossible de nous justifier nous-mêmes en mettant ces choses en pratique pour vivre par elles. Donc, dans la suite de Galates chapitre 3, justement, versets 21 à 24, l'apôtre Paul, qui vient de dire « La loi ne procède pas de la foi » parce qu'elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle, mais le juste vivra par la foi. » La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. La loi de l'Ancien Testament nous a montré que nous sommes pécheurs. Afin que ceux qui avaient été promis soient donnés par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, alors la justice viendrait réellement de la loi. Mais, Paul dit, la réalité, c'est que Dieu n'avait jamais donné la loi avec l'idée que nous puissions la mettre en pratique afin de vivre par elle. Et ça se voit même dans la nature propre de la loi de l'Ancien Testament. Parce que finalement, quand on regarde de près l'élément central de l'Ancien Testament, l'élément central de la loi, ce n'était pas les commandements que l'homme devait accomplir. Mais dès le début, ce qui était au cœur de tout, c'était le système de sacrifice. Puisque Dieu reconnaissait, Dieu savait très bien que l'homme serait incapable d'obéir à la loi, et donc dans la loi même, il y avait les sacrifices pour couvrir le péché. Hébreux chapitre 9, verset 18, « Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang qui venait des sacrifices. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu avait construit un système avec au cœur les sacrifices pour couvrir les péchés de son peuple qui était pécheur et qui donc avait besoin de ces sacrifices pour maintenir leur relation avec Dieu parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils seraient incapables d'obéir à la loi. La loi était là pour les enfermer sous le péché jusqu'à ce que Christ vienne et de les conduire donc à Christ. Donc ce soir, nous allons regarder deux exemples concrets dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres très spécifiquement, concernant ces sacrifices et concernant donc la dépendance du peuple de la grâce de Dieu. Et le premier donc, après avoir lu cette histoire de Moïse qui faisait l'aspersion avec de l'hysope, un deuxième exemple de l'usage de l'hysope pour l'aspersion, donc en Nombres chapitre 19, Nombres chapitre 19, à partir du premier verset, ben en fait tout le chapitre, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et il dit « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse sans tache, sans défaut corporel et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort, et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur, et son impureté est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente, et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort ou des ossements humains ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Et celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur, le 3e jour et le 7e jour. Et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Donc toute une procédure qui part de cette base d'un sacrifice qui est fait, et où donc après les cendres du sacrifice sont mélangées avec de l'eau et aspergées sur la personne considérée impure. Quand on lit Hébreux chapitre 10, versets 1 à 4, ce passage nous révèle une grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hébreux 10, verset 1 donc, « En effet, la loi, donc l'Ancien Testament, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc on a tous ces rites dans l'Ancien Testament fondés sur des sacrifices, des nombres incroyables d'animaux sacrifiés dans ce système, de rites qui devaient être accomplis, mais qui étaient régulièrement refaits. Rien que le sacrifice quotidien, il y avait sacrifice du matin, sacrifice du soir, pour le pays. Puis il y avait tous les sacrifices que chaque Israélite devait apporter selon les différentes circonstances. Quand on voit parfois certains descriptifs des fêtes dans l'Ancien Testament, il y avait des centaines et des milliers d'animaux qui étaient sacrifiés à la fois, parce que l'auteur aux Hébreux nous dit, ces sacrifices n'étaient pas une solution définitive au problème du péché. Ces sacrifices étaient là pour couvrir certaines choses, pour rendre pur pour un instant, mais devaient tout le temps être renouvelés parce que ces choses ne réglaient pas le problème principal. Mais il y avait donc des sacrifices pour couvrir toutes sortes de péchés. On a lu dans ce passage même des sacrifices concernant ce qui devait se faire s'il y avait un vase qui était dans un lieu où il y avait un mort ou qui était touché par quelqu'un qui avait touché un mort. Il y a même des textes de loi dans l'Ancien Testament qui expliquent comment il faut faire dans le cas où une mouche morte tombe à l'intérieur d'un de ces vases. Il y avait des lois très spécifiques concernant tout ce qui devait être considéré comme pur et tout ce qui devait être considéré comme impur. Et on voit dans ce texte que rien qui était considéré impur ne pouvait rester parmi le peuple d'Israël. Il dit donc que si telle personne est considérée comme impure, il doit être sorti hors du camp. Le cadavre de l'animal sacrifié devait être emmené en dehors du camp du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, ce peuple était appelé à être un peuple saint et rien d'impur ne devait rester parmi ce peuple saint qui en plus habitait sur une terre sainte parce que Dieu était là parmi eux. Dieu vivait là, Dieu est un Dieu saint, donc là où Dieu habite est saint, et le peuple que Dieu appelle à lui devait être saint. Lévitique chapitre 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Donc Dieu enseignait ce peuple en disant « Il faut des règles très strictes pour veiller à ce que vous soyez toujours considérés comme saints parce que moi j'habite au milieu de vous. Bon. » Dans un deuxième temps, ça allait être à travers la ville de Jérusalem où il dit « Voici la ville que j'ai choisie, j'y habite lorsque le temple était là, donc c'est la ville sainte parce que moi j'habitais là. » Avant cela, c'était par le tabernacle. Il disait le lieu très saint dans le tabernacle, ce lieu où était posé l'arche de l'Alliance avec le couvercle dessus, le couvercle propitiatoire avec les anges sculptés dessus. Dieu disait, moi, j'habite là, entre les séraphins, et puisque moi, je suis le Dieu saint, et que moi, j'habite là, ça veut dire que par conséquent, ce tabernacle est saint, d'où le lieu très saint, ou le saint des saints, qui était juste à côté du lieu saint, qui était à côté donc de tout le tabernacle, qui était considéré comme saint, mais finalement Dieu dit, partout où vous camper en tant que mon peuple, puisque vous êtes le peuple saint et je suis le Dieu saint, tout ce lieu doit être un lieu saint, un lieu de sainteté. Et donc vous devez veiller là-dessus. Et donc, dans le passage qu'on a lu en Nombre 19, les versets 13 et 20 soulignent un cas particulier et qui nous enseigne donc un principe qui en découle et qui peut aussi nous aider à comprendre les voies de Dieu. Verset 13, « Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort, et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur, et son impureté est encore sur lui. » D'accord ? Donc lorsque il y avait quelqu'un qui touchait un cadavre, Dieu disait, ben, il faut savoir que cela va vous rendre impur à mes yeux, donc il va falloir régler ce problème. Mais je vous donne des instructions sur comment régler ce problème. Vous allez donc voir le prêtre avec cette vache rousse, il va sacrifier la vache rousse, vous allez faire brûler les restes en dehors du camp, le prêtre va asperger le sang de cet animal. Et puis, une fois que l'animal a été brûlé, vous allez ramasser les cendres, vous allez les mélanger avec de l'eau, et puis vous allez venir devant quelqu'un de pur, et le troisième jour et le septième jour, vous allez vous faire asperger de cette eau qui contient les cendres de la vache qui a été sacrifiée. Et à partir de la deuxième fois, donc le septième jour, je vais vous considérer comme pur. Mais, Dieu dit, si après cela ne vous convient pas, si vous dites, oh bon, je ne vois pas pourquoi Dieu fait une telle histoire sur le fait que j'ai touché ce cadavre, je n'ai pas besoin de me faire purifier par le prêtre, je n'ai pas besoin d'apporter ce sacrifice de vache et de faire tout ce tralala pour que Dieu me considère pur, il dit, ben, à partir du moment où vous ne suivez pas ce processus, que je vous ai donné, je vous considère comme toujours étant impur. Vous avez choisi de garder votre impureté, et puisque je suis le Dieu saint, que là où j'habite est saint, et que le peuple parmi lequel j'habite doit être saint, seule solution à ce moment-là, c'est d'exclure cette personne de la communauté. Parce qu'il souille le sanctuaire de l'Éternel, qui est censé être saint. Par son propre choix, par le fait de négliger ce que Dieu a fait, il a gardé son impureté et donc il a rendu forfait sa place parmi le peuple de Dieu. Dans la version du semeur, le verset 20 de Nombre 19 dit « Si l'homme qui s'est souillé néglige de se purifier ainsi, il sera retranché de la communauté, car il souille le sanctuaire de l'Éternel. Il reste impur, puisque l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. » Donc, de par son choix de négliger ce que Dieu lui a dit de faire, alors il doit vivre maintenant les conséquences de son choix et de sa décision. Deuxième exemple, un peu plus loin, donc dans Nombre chapitre 21, on va juste lire les versets 4 à 9, une histoire assez bien connue. Donc le peuple partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Encore une histoire concernant les conséquences du péché. Le peuple qui a péché contre Dieu, contre Moïse, en se plaignant de ce que Dieu avait fait pour eux jusque-là, comme on a constaté le week-end dernier. Les Israélites sont un très bon exemple de l'ingratitude de l'être humain, de notre incrédulité, de notre impatience, de tout ce que vous voulez. Ce peuple sorti d'Égypte, sorti de l'esclavage, qui reçoive une nourriture miraculeuse de la part de Dieu, et puis qui se plaignent en disant « Mais qu'est-ce que c'est nul ici en chemin ? Tu nous avais parlé d'un pays où coule le lait et le miel, et ben nous on se trouve dans un désert. » Et souvent, on voudrait bien arriver au but sans avoir à passer par le voyage entre deux, n'est-ce pas ? On voudrait bien toutes les bénédictions du royaume de Dieu que Dieu nous a promis pour l'avenir, tout cet héritage que Dieu a réservé pour nous dans les cieux. Tout de suite, on est un peu comme le fils prodigue, le plus jeune frère qui dit « Je veux tout, tout de suite !» Et parfois, on est mécontent avec le traversée qui va nous emmener jusque-là. Ben, c'était le cas du peuple d'Israël, et donc ils se plaignent contre Dieu. Donc Dieu envoie des serpents contre le peuple qui mordent le peuple, et donc beaucoup qui meurent. Mais en même temps, Dieu leur offre sa grâce. Verset 8. Donc l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Dieu leur dit, je constate que vous êtes pécheurs, voici les conséquences de votre péché. Mais je suis prêt à vous faire grâce. Je donne le moyen d'en sortir de cette situation. Mais du côté d'Israël, il se trouve devant un choix basé sur la foi. Dans Nombre 19, c'était déjà finalement une question de foi qui allait se voir dans les choix qu'il faisait. Dieu dit, je vais vous donner le moyen de sortir de votre impureté, de vous rendre pur. Vous avez qu'à apporter le sacrifice chez le prêtre, de vous faire asperger avec l'eau d'expiation et vous serez pur. Si vous croyez que ça vaut la peine. Ici également, Dieu dit, ben voilà l'exemple concret de la réalité que le salaire du péché, c'est la mort. Vous êtes en train de mourir mordu par ces serpents, mais si vous me faites confiance, je ne vais pas vous donner une antidote au poison du serpent, je ne vais pas vous vacciner contre les serpents, mais je vais vous donner quelque chose qui, finalement, n'a presque rien à voir avec la réaction physique. Mais si vous me faites confiance, si vous faites ce que je vous dis, moi, je vous dis que vous vivrez. Si vous regardez ce serpent fait en métal, suspendu sur cette perche, alors vous serez sauvés des conséquences de votre péché. Alors certes, On pourrait dire que la réaction d'Israël a déjà commencé dans le verset 7. Quand le peuple vient à Moïse et dit « Oh, nous avons péché et nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, donc prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Parfois, on est prêt à reconnaître qu'on a péché, qu'on a fait du tort. On est même prêt à demander à quelqu'un d'autre de prier pour nous, pour qu'on évite les conséquences de notre péché. Mais Dieu dit, je vais quand même mettre votre foi à l'épreuve. Voir si vous êtes prêt à mettre votre confiance en moi. Très bien, Moïse a prié pour vous. Du coup, je vous fais grâce en vous donnant le moyen de vous en sortir. À vous maintenant de me croire ou pas. Il pourrait très facilement dire, mais attends, depuis quand regarder une image en métal taillée d'un serpent guérit des morsures de serpent? Un médicament, je veux bien, mais regarder vers un serpent en métal, ça n'a jamais guéri personne. Et Dieu dit, est-ce que vous êtes prêt à me croire? Je vais mettre votre foi à l'épreuve. Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. Mais ce verset donc sous-entend que quelqu'un mordu, qui dit « mais c'est débile de regarder vers ce modèle », lui, il ne conservait pas la vie. Je dis « voici le moyen de vous en sortir, servez-vous-en si vous me faites confiance ». Celui qui négligeait le moyen offert par Dieu, qui négligeait de regarder au serpent, ne serait pas pour autant sauvé, ne conserverait pas la vie. Parce que Moïse souligne bien, c'était celui qui avait été mordu et qui regardait le serpent, qui conservait la vie. Et donc c'est là où ces deux histoires nous révèlent un principe important qui s'applique tout autant à l'Évangile, tout autant au message du Nouveau Testament qu'à l'expérience d'Israël dans l'Ancien Testament. Parce que donc le Nouveau Testament, l'Évangile, c'est l'étape ultime que Dieu a révélée pour régler le problème du péché et des conséquences du péché. Donc Romains 3, verset 23, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Tout être humain, dit l'apôtre Paul, a péché, et du coup, tout être humain est séparé de Dieu à cause de son péché. Et Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Tout comme la conséquence d'être mordu par le serpent à cause des plaintes contre l'Éternel, le salaire, c'était la mort. Mais encore une fois, comme dans les deux cas dans l'Ancien Testament, encore une fois, sous le Nouveau Testament, dans sa grâce, Dieu a pourvu une solution au problème posé par le péché. Romains 3, 23, donc, le salaire, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tout comme dans Nombre chapitre 21, il pouvait dire, ils sont gratuitement guéris par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est dans ce serpent d'airain. Peu surprenant après que Jésus dit, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, le Fils de l'homme lui aussi sera élevé. Deuxième partie de Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu, dans sa grâce, pourvoit à la solution aux conséquences du péché que représente la séparation d'avec Dieu et la mort. Et la Bible nous dit que donc Jésus est venu être le sacrifice ultime. L'Ancien Testament donc était construit sur tous ces sacrifices qui pourtant n'arrivaient pas à enlever le problème du péché, car il était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, mais qui était là pour démontrer au peuple qu'il y aurait le sacrifice à venir. Pour ça, Paul dit aux Galates que la loi agissait comme précepteur pour nous conduire à Christ, pour nous montrer que face au problème du péché, il y avait une solution pour le moins temporaire, limité, qui était tous ces sacrifices qu'on devait renouveler régulièrement. Mais plus tard, il révèle qu'il envoie le sacrifice ultime, d'où toute l'image d'Ésaïe chapitre 53 sur le sacrifice de celui qui a porté nos péchés dans son corps sur la croix. Romains chapitre 3, verset 25, c'est Jésus-Christ que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Jésus est venu être le sacrifice qui maintenant réglerait le problème ultime du péché. Donc quand on lit Hébreux 10, verset 1, donc la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc ne pouvez jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année emmener les assistants à la perfection. Dans le Nouveau Testament par contre, Hébreux 10, verset 14, car par une seule offrande, Jésus-Christ a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. L'auteur aux Hébreux nous dit, l'Ancien Testament, avec tous ses sacrifices, il fallait les répéter régulièrement parce que ces sacrifices pouvaient temporairement couvrir le péché pour que cette relation soit maintenue entre Dieu et son peuple. D'où celui qui refusait, qui négligeait les sacrifices, ne pouvait rester parmi le peuple de Dieu. Nouveau Testament, dit l'auteur, un peu plus loin dans le même chapitre, Jésus, maintenant par un seul sacrifice, le jour de sa mort sur la croix, lui, il a au contraire réglé une fois pour toutes le problème du péché, il a résolu cette séparation d'avec Dieu, il a résolu la question de la mort comme salaire du péché, il a conduit à la perfection tous ceux qui mettent leur confiance en lui par son sacrifice. Mais en même temps, comme dans les deux passages du livre de Nombres, cette solution au péché, les effets de ce sacrifice de Jésus qui est capable de conduire à la perfection tous ceux qui croient en lui, ne devient effectif que lorsque nous réagissons par la foi. Dans l'Ancien Testament, Dieu donnait au peuple d'Israël la loi concernant cette vache rousse, concernant l'eau qui devait être faite. Mais tout seul, ça ne suffisait pas. L'eau qui se trouvait auprès du prêtre ne suffisait pas pour rendre pure la personne qui avait touché un cadavre. Il fallait que cette personne s'en serve. Il fallait que par la foi, cette personne réagisse en disant « J'ai besoin d'être purifié par cette eau d'expiation, par ce sacrifice que Dieu a prévu et que Dieu nous a donné comme solution. Sinon, il n'était pas purifié de ses impuretés. Celui qui avait été mordu par les serpents, s'il ne regardait pas vers le serpent que Moïse avait fabriqué, Moïse pouvait rester là toute la journée en tenant son serpent sur la perche. Ça ne lui servait à rien, il mourait quand même. Le fait que Jésus soit mort sur la croix comme moyen d'être conduit à la perfection, si on ne réagit pas par la foi à ce que Dieu a fait, cela ne nous sert à rien. Nous ne serons pas pour autant purifiés, pas pour autant justifiés. Le fait que Jésus-Christ soit venu sur la terre à un moment précis de l'histoire, qu'il soit crucifié sur la croix à un jour précis de l'histoire, ne nous sert à rien si on ne répond pas avec foi. Ce n'est pas pour autant que la population entière du monde sera sauvée que nous irons tous au paradis en disant « Ah ben Jésus-Christ est mort un jour pour l'humanité ». Certes, mais il nous faut réagir avec foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Si on ne l'applique pas à notre propre vie, cela ne nous sert à rien. Ça devient effectif lorsque nous réagissons par la foi. Ce n'est pas que notre foi devient une source de mérite où on gagne notre salut en disant que ben voilà, moi, Dieu a fait sa part, moi j'ai apporté ma part. La Bible nous dit que tout est par grâce, que Dieu a tout fait, que Dieu a fait ce qui était nécessaire pour qu'on soit purifié, pour qu'on soit justifié. Tout simplement par la foi, nous le prenons au sérieux. Nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés. Nous croyons que ce sacrifice suffit pour couvrir nos péchés. Nous croyons que nous vivrons par la grâce de Dieu en plaidant les mérites de Jésus-Christ. Les uns donc devaient, par la foi, se présenter pour être aspergés avec cette eau d'expiation. D'autres devaient, par la foi, regarder au serpent d'airain pour être sauvés. Nous, Actes 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Nous devons réagir avec foi. Paul et Silas auraient très bien pu dire au geôlier, à Philippe, « Oh, ben, t'as plus à t'inquiéter pour le problème de tes péchés. T'es sauvé. Jésus-Christ, tu ne savais pas, Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il est mort. » Mais non, ils ont dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Ça vaut pour toi et pour ta famille. Acte 2, verset 38, nous montre que croire au Seigneur Jésus est une action pratique, une action spécifique que nous accomplissons par la foi devant ce que Dieu a fait. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Jésus est venu mourir sur la croix pour apporter la solution au péché, pour conduire à la perfection ceux qui donc mettent leur foi en lui, ceux qui sont sanctifiés. Mais pour être sanctifié, pour être rendu pur, les apôtres disent il faut croire au Seigneur Jésus. Ça veut dire il faut se repentir et être baptisé. À 4, verset 12, nous dit que la foi reconnaît qu'il n'y aura aucune autre solution que de croire dans le sacrifice de Jésus. À Cadbouze, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lequel nous devions être sauvés. Aucune autre divinité, pas nous, nous-mêmes non plus. Notre propre nom n'est pas la source de notre propre salut. Nous ne pouvons pas dire, ah ben finalement, tu sais, Paul, il était pas mal. Devant ce que tu as dit, bon, il s'en sort plutôt bien, donc il mérite bien. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Nous sommes appelés par la foi, simplement à accepter avec gratitude ce que Dieu a fait pour nous. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Par la foi, si nous croyons, nous recevons de sa part le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nés de la volonté de Dieu. En conclusion, encore quelques paroles de l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 2, les trois premiers versets. Après avoir rapidement résumé ce que Dieu avait fait en Jésus-Christ et à quel point le sacrifice de Jésus-Christ était supérieur au sacrifice temporaire de l'Ancien Testament, il dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges, donc l'Ancien Testament, a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Les gens dans l'Ancien Testament restaient dans leur impureté s'ils négligeaient le sacrifice et l'eau d'expiation que Dieu avait prévu, ou s'ils négligeaient de regarder au serpent. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. S'il n'y a effectivement de salut en aucun autre, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui règle une fois pour toutes le problème du péché, la séparation d'avec Dieu, la mort comme salaire du péché? Ne soyons pas négligents, mais répondons avec foi à ce que Dieu a fait pour nous dans sa grâce par le sacrifice de Jésus-Christ. Croyons en lui, repentons-nous, soyons baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos, à cause du pardon de nos péchés. Et que nous puissions du coup vivre par la foi, croyant que Dieu a effectivement offert la solution.